Bienvenue chez vous.
Les infos. Vos infos d'ici.
Bon matin, il est 8 heures. Les informations locales et régionales. Bonjour Alexis.
Bonjour Anne.
Alexis, on va rappeler aux gens l'incident de ce matin. Un incendie très tôt en matinée.
Qui a duré plusieurs heures.
Hein? Ah oui, oui. La circulation était complètement fermée à un moment donné. C'est devenu en alternance. Et là maintenant, ben, soyez assurés, la circulation se fait à la normale. C'était à la hauteur du lac Adjawaziwizi sur Kitiganzibi. Donc pour les gens qui ne le savaient pas encore, le tout est revenu à la normale. On leur souhaite une bonne route. L'AFC, ça, c'est l'aire phonique communautaire du Basque-Tongue, traque le cladoquer épineux jusqu'en octobre.
Exactement, et c'est depuis le mois de mai que l'AFC procède à des échantillonnages toutes les trois semaines pour connaître la progression du cladocère épineux dans le réservoir Basque-Tongue. Cette espèce exotique envahissante a été découverte en septembre 2024 par un pêcheur. Selon la directrice générale de l'AFC, Chloé Tellier, il est peu probable que le Basque-Tongue puisse en être un jour débarrassé complètement.
Quand il y en a dans un plan d'eau, aujourd'hui, ils vont en avoir pour toujours. C'est une espèce envahissante. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ça se reproduit et ça se clone. Donc, c'est exponentiel, la reproduction de ça.
Le cladocère épineux est un petit plancton qui est inoffensif pour les baigneurs et pour ceux qui consomment le poisson du Basque-Tongue. On le retrouve en grande quantité au début du mois de juillet et à la mi-septembre. Il peut former un amas sur les fils de pêche tressés. Muni de petites épines qui lui permettent de s'attacher à peu près à n'importe quoi, le cladocère vient faire compétition aux autres planctons présents dans le réservoir. Cela pourrait avoir un impact sur le doré, précise Chloé Tellier.
Il se nourrit aussi de plancton. Fait qu'il va venir faire compétition au bon plancton, qui est une des sources de nourriture aussi du doré. Fait qu'est-ce que notre doré va devenir un petit peu moins dodu parce qu'il va avoir moins de plancton, malgré qu'il se nourrit aussi de poissons, là. Mais c'est une des questions qu'on se pose. Puis est-ce que ça va causer un peu de mortalité parce qu'une trop grande consommation va venir faire des dommages à l'estomac? C'est une autre question soulevée qu'on va avoir la réponse dans le futur.
Au Québec, le cladocère épineux n'avait pour l'instant jamais été observé dans un réservoir comme celui du Basque-Tongue. Il va rester à savoir si cette espèce exotique envahissante qui survit au gel s'implantera aussi dans les plans d'eau en aval. Chloé Tellier recommande d'inspecter et de laver tout ce qui a été touché, tout ce qui a touché à l'eau du Basque-Tongue par mesure de prévention. Il est conseillé de ne pas non plus transporter ailleurs l'eau du Basque-Tongue. Et j'ajoute qu'on voit l'importance de signaler à l'AFC des choses qu'on trouve anormales. Si un pêcheur n'avait pas signalé, on ne serait toujours pas au courant.
Exactement. Maintenant, parlons de le Grand BioBlitz, une partie de Pokémon Go Grandeur Nature.
La cinquième édition du Grand BioBlitz de conservation de la nature Canada a lieu toute la semaine. À cette occasion, la population est invitée à photographier ou enregistrer les animaux sauvages des alentours. Pour participer, il suffit de photographier une espèce ou d'enregistrer leur son après s'être inscrit sur le site legrandbioblitz.ca qui est disponible sur notre site web. Ces clichés seront ensuite répertoriés dans une banque de données qui servira aux chercheurs ou aux organismes. Le but est de documenter la biodiversité du Canada. Le directeur de la conservation stratégique et l'innovation chez Conservation de la Nature Canada, Pascal Côté, décrit ce défi comme une version réaliste du jeu vidéo Pokémon Go.
Comment ça fonctionne? C'est simple. Il faut juste prendre des photos ou des enregistrements sonores si c'est des oiseaux, par exemple. Et là, on prend une photo. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est qu'il y a des suggestions qui apparaissent. C'est très, très précis comme suggestion. Et là, et ensuite, il y a une communauté d'usagers, des experts qui valident vos observations. Donc, même si c'est quelqu'un qui n'est pas initié, qui connaît peu, bien là, en mettant vos observations, il y a d'autres gens qui peuvent valider vos observations de cette façon-là. Et là, ça s'en va dans une grande banque de données.
Le directeur précise que le territoire de la vallée de la Gatineau est particulièrement intéressant en raison de sa grande variété d'espèces.
L'Outaouais, c'est une région qui est super riche. On sait pour les secteurs qui ont été inventariés, entre autres le parc de la Gatineau, il y a des bons inventaires qui ont été faits. On sait qu'il y a une grande diversité d'espèces, mais à l'extérieur du parc, on voit une grande différence entre l'intérieur et l'extérieur du parc. Étant donné que vous êtes vraiment dans le sud-ouest du Québec, il y a certaines espèces qu'on trouve, des fois que c'est à la limite nord là, de l'horaire de répartition. Donc, ça peut être super intéressant de voir les espèces que les gens peuvent trouver dans votre coin, c'est sûr et certain.
Cette année, le Grand BioBlitz s'est passé de 5 jours à 1 semaine. Toutefois, le site Internet est accessible et utilisable en tout temps.
Inventaire forestier, Alexis, les forêts de la vallée de la Gatineau parmi les plus riches du Québec.
Le ministère des Ressources naturelles et des forêts effectue des travaux d'inventaire dans les forêts publiques et privées du Québec. L'objectif est de déterminer quel type de bois est produit dans les différentes régions. Cette étude, qui a débuté en 2017, se termine en novembre prochain. Depuis 1970, ces études sont réalisées dans des intervalles de 15 ans. En Outaouais, les inspecteurs cherchent à repérer la carie du bois. Il s'agit d'une pourriture causée par des champignons. La responsable de la division de la diffusion et du soutien à la clientèle pour la direction des inventaires forestiers, Isabelle Legault explique pourquoi.
Un arbre va être affecté par des blessures, il va avoir des épidémies, il va avoir des chablis, puis ça fait en sorte que ça va créer des portes d'entrée dans le bois et les champignons vont rentrer dans le bois et vont créer une certaine pourriture. On peut pas faire, mettons, des 2x4 ou des planches avec ce type de bois-là. Donc, c'est de la carie, c'est de la pourriture. On doit l'évaluer pour connaître la santé de nos forêts puis aussi le volume de bois qu'elle est capable de produire au fil du temps pour les besoins actuels, mais aussi pour les besoins futurs là, de nos forêts.
Madame Legault précise que la vallée de la Gatineau est l'une des MRC avec la plus grande variété d'arbres en raison de son territoire qui traverse 4 domaines bioclimatiques.
Au sud, à partir de l'eau, là, je dirais jusqu'à Maniwaki, autour là, de la rivière de la Gatineau, vous avez l'érablière à tilleul. Ensuite, vous avez l'érablière à bouleau jaune. Plus au nord, on va aller dans la sapinière à bouleau jaune. Puis finalement, à l'extrême nord, là, on est dans la sapinière à bouleau blanc. Donc, vous avez principalement des érables à sucre, des érables roses, du bouleau jaune, du sapin baumé, du bouleau à papier, le hêtre à grande feuille, le tilleul d'Amérique, les épinettes noires et blanches. On va retrouver aussi là, du chêne rouge, des frênes, frênes noires, frênes blancs, le pin blanc, le pin rouge aussi.
Le ministère assure qu'aucun arbre ne sera coupé durant l'inventaire et les propriétaires de forêts privées concernés seront informés par écrit des travaux à venir.
C'est vrai qu'on a de la belle forêt ici dans la vallée de la Gatineau. Effectivement, on aura un autre bulletin local, c'est-à-dire avec toi, là, 9h et 10h. Midi, est-ce que c'est Michel Tanganyika? Michel Tanganyika pour midi. Donc, d'autres informations viendront au cours de la journée. Merci à toi, Alexis.
Merci à toi.